Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le sujet qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines en France et c'est l'une des pistes d'Emmanuel Macron après le grand débat national et la crise des gilets jaunes pour la deuxième partie de son quinquennat. Le débat sur le temps de travail relancé en France, de l'âge de départ à la retraite jusqu'aux 35 heures en passant par éventuellement une nouvelle journée de solidarité. Plusieurs idées sont sur la table et ce qui ressemble à plusieurs ballons d'essai ont été lancés. Il s'agit en gros de travailler plus pour payer plus, plus de dépendance, plus de baisse d'impôts ou autre chose. Tout cela reste à définir précisément, mais cela pourrait être explosif. Ça va en tout cas susciter le débat. Les Français sont-ils prêts à travailler plus? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Daniel Linhart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du travail et directrice de recherche émérite au CNRS. Et Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division emploi et revenus à l'OCDE et chercheur au département économie de Sciences Po. Il y a plusieurs questions qui se posent en fait et on va essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, si l'on envisage de faire travailler plus les gens, c'est peut-être qu'il y a derrière l'idée qu'ils ne travaillent pas assez. Les Français travaillent-ils assez et notamment par rapport à leurs voisins européens? Dis-moi, Stéphane Carcillo, est-ce qu'ils travaillent autant?
Alors, les Français travaillent par rapport à leurs voisins européens et même par rapport à la moyenne de l'OCDE un peu moins, hein, c'est clair. Mais d'autres pays, très productifs, travaillent encore moins.
Qui ont des réputations, en tout cas, de gros travailleurs?
Oui,
L'Allemagne,
par exemple, effectivement, on travaille moins en Allemagne. Mais après, il faut essayer de comprendre quelles sont les sources de ces divergences. En fait, quand on regarde la totalité des heures travaillées sur l'année, la France est autour de 1500 heures par personne qui travaille. L'Allemagne un peu moins, autour de 1350. Mais c'est parce qu'en fait, on prend les heures travaillées par tout le monde, y compris les gens qui font du temps partiel. Et donc, en Allemagne, par exemple, le temps partiel est beaucoup plus fréquent que chez nous, notamment chez les femmes. Et donc, ça pèse sur la durée du travail. En revanche, si on regarde effectivement des statistiques qui regardent le temps de travail des gens qui sont à temps plein sur la semaine, bah la France est beaucoup plus proche par exemple que l'Allemagne. On travaille 40 heures en Allemagne et presque 39 en France parce que malgré les 35 heures, en fait la plupart des Français font des heures supplémentaires de manière structurelle et donc ça rapproche beaucoup les Français de la moyenne des autres pays. Et puis il y a une autre dimension qui sont le nombre de jours travaillés dans l'année. Alors là ça tient compte des congés, des jours fériés. Et là, la France a plutôt un nombre de jours de congés et de jours fériés légèrement supérieur à la moyenne, un peu dans le tiers des pays où on a pas mal de jours de congés. Et enfin, il y a une dernière dimension, c'est le nombre d'années qu'on travaille sur la vie entière. Et là, la France se caractérise finalement par beaucoup de concentration du travail aux âges très actifs, entre 25 et 50 ans, et beaucoup moins d'heures de travail à partir de 60 ans, parce qu'on a un âge de départ à la retraite assez précoce et pas beaucoup d'heures chez les jeunes non plus. Et ça, ça fait en sorte que les heures travaillées par Français et non pas par personne en emploi sont plutôt basses en France qu'ailleurs.
Alors donc c'est pas vraiment une découverte de dire qu'il y a peut-être des différences importantes entre les Français, ceux qui travaillent à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel. Daniel Linhart, vous êtes sociologue. Comment, dans vos études, les gens que vous avez interrogés se positionnent par rapport à cette question de la quantité de travail? Est-ce qu'il y a une réponse univoque, puisqu'il y a différents profils, ça vient d'être dit par Stéphane Carcillo. Est-ce qu'il y a une réponse univoque ou en fonction des profils, les réponses sont forcément différentes?
Il n'y a évidemment jamais de réponse univoque, mais enfin, il y a des tendances. Est-ce que il me semble qu'en France, on peut dire que les Français ont le sentiment on leur fait pas tout à fait honneur au travail. Il y a une sorte d'opinion publique qui dirait qu'en France, vraiment, on est plutôt frileux quant au travail, que les Français sont plutôt paresseux. Il y a eu beaucoup d'éléments comme ça dans l'histoire.
Comme je disais, des réputations, en fait.
Des réputations, tout à fait. Depuis 1984, il y a une fameuse émission Vive la crise avec Yves Montand qui disait heureusement que la crise est là pour que les Français se retroussent les manches. Et puis, il y a eu le fameux discours de Raffarin au Québec qui disait bon franchement il faut que les Français s'y remettent et toute la campagne de Sarkozy sur la réhabilitation. Donc il y a cette idée qu'en France franchement on n'est pas très sérieux, on n'est pas très courageux. Or on a quand même la productivité horaire une des plus fortes au monde. C'est-à-dire que les Français travaillent peut-être comparativement à la moyenne des Européens ou du monde, un nombre d'heures moindre, encore que c'est pas tellement énorme, c'est pas tellement flagrant, mais on sait que l'intensité horaire est extrêmement forte. Et par contre, il y a une réputation qui est complètement décalée par rapport à cette réalité. Et ça, les Français en souffrent et se sentent un petit peu expropriés de leur propre travail du point de vue symbolique. En France, le travail est l'activité la plus importante comparativement à ce que ressentent d'autres actifs dans d'autres pays. Il y a eu des comparaisons, notamment avec les 27 pays européens, qui montrent que pour les Français, ce qui est le plus constitutif de leur identité, de leur socialisation, c'est le travail, par rapport à d'autres activités, comme les loisirs, la santé, enfin d'autres dimensions de la vie. En France, c'est très sérieux. Or, il y a cette réputation de, franchement, il faut remettre la France au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est tendanciellement très mal vécu par les salariés. Et pire encore, il y a une sorte de suspicion des uns à l'encontre des autres qui est extrêmement nocif au climat général.
Stéphane Carcillo, cette question de la productivité horaire, le chiffre français, il est effectivement plutôt bon, plutôt au-dessus de la moyenne ?
La France fait partie des pays de l'OCDE où la productivité du travail est élevée, effectivement. Mmh. D'ailleurs, ce qui permet en France et dans d'autres pays de baisser la durée du travail de manière tendancielle, parce qu'on est tous plus productifs, donc on a besoin de moins travailler pour produire les mêmes choses, et on observe dans la plupart des pays une baisse tendancielle de la durée du travail. Une des particularités de la France, en revanche, c'est que cette productivité horaire est le fruit non seulement de l'éducation des gens, de leurs compétences et du niveau technologique de la France, mais aussi en partie c'est le côté négatif du fait qu'on exclut du marché du travail certaines personnes moins productives qui sont au chômage ou inactives. C'est notamment le cas des jeunes sans qualification ou des jeunes qui galèrent pour entrer sur le marché du travail, et aussi des seniors qu'on exclut assez vite du marché du travail. Donc il y a un côté un peu négatif sur cette productivité élevée en moyenne.
Le taux de chômage en France, et je rebondis sur ce que vous disiez Stéphane Carcillo à l'instant, il est un peu inférieur à 9%. C'est beaucoup et c'est loin du plein emploi. Pourquoi faire travailler davantage ceux qui travaillent déjà, qui sont à temps plein, qui sont dans l'emploi, alors qu'on n'arrive pas à donner du travail à ceux qui en cherchent, tout simplement? Ça fait quand même des années que ça dure.
Alors, il n'y a pas de... Ce que montrent les différentes études et la comparaison des différents pays, c'est qu'il n'y a pas de rapport un pour un entre le travail des uns et le chômage des autres. Mmh. C'est-à-dire que la taille du gâteau n'est pas fixe. Mmh. C'est pas parce qu'on va faire travailler plus ceux qui travaillent déjà ou augmenter la nombre d'heures travaillées, donc la taille de la production, du gâteau, qu'il y aura moins d'emplois pour les autres. Il y en a beaucoup d'exemples de ça, par exemple. Les pays, par exemple, où les seniors travaillent le plus longtemps et les taux d'emploi sont les plus élevés, sont aussi les pays où les jeunes travaillent le plus. Donc, heures de travail importantes ne signifient pas, pour les actifs, ne signifient pas moins d'emplois pour les jeunes ou les personnes les plus éloignées du travail.
Daniel Lénard, il y a ce sentiment de société à deux vitesses en qui concerne le travail?
Moi, je pense qu'il doit y avoir une relation de causalité entre les deux, quand même. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avec les 35 heures, il y a eu une réelle intensification du travail. C'est-à-dire que les 35 heures avaient été pensées pour permettre la création d'emplois, et on s'est rendu compte que dans une majorité de cas, c'était plutôt faire avec un nombre d'heures moindre ce qu'on faisait auparavant, c'est sans avoir des effectifs supplémentaires.
C'est là qu'a beaucoup augmenté la productivité horaire,
oui,
en fait, à ce moment-là.
Mais la productivité horaire a beaucoup augmenté, et puis on a vu se développer ce qu'on pouvait appeler une sorte de révolution managériale, où il s'agissait de tirer le maximum de chacun. On a vu une psychologisation du travail, il faut viser l'excellence, il faut se donner à fond, il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort, etc., etc. Donc vraiment un usage extrêmement intensif et, je dirais, qui fragilise les salariés et qui peut éventuellement rendre compte de ce qui est en train de se développer de façon absolument spectaculaire, c'est-à-dire la souffrance au travail, les suicides au travail, l'idée qu'il y a quand même des risques psychosociaux très importants, c'est lié à cette psychologisation, ce management des affects, cette gestion des émotions. On demande à chacun de se donner le plus possible pour effectivement remplir des objectifs qui sont de plus en plus exigeants. Alors pensez que ça n'a aucun qu'un rapport avec le nombre d'emplois global, j'ai du mal quand même. Je pense que effectivement, si on exclut, comme on le fait systématiquement en France, les seniors des entreprises, notamment les plus grandes, c'est parce qu'on estime qu'ils ne sont pas en mesure de donner autant que la population intermédiaire qui a suffisamment d'expérience et suffisamment de force pour être extrêmement performant et rentable.
Stéphane Carcillo, vous avez tous les deux d'ailleurs évoqué la réforme des 35 heures, ça fait quand même quelques années maintenant. Personne apparemment quand même, et notamment les entreprises hein, qui sont concernées, ne semblent vraiment prêts à rouvrir ce débat pour augmenter la durée du temps de travail.
Oui, alors c'est une des raisons vient d'être évoquée pour laquelle les entreprises ne veulent pas forcément remettre le couvert de la négociation parce qu'en fait elles ont obtenu beaucoup de choses en contrepartie de cette baisse des heures travaillées pour compenser le surcoût pour les entreprises en matière de coût horaire du travail puisqu'on baisse les heures du travail à salaire fixe donc le coût horaire du travail augmente et ben elles ont demandé moins de temps de pause.
Absolument.
Voilà.
Oui.
Elles ont demandé des réorganisations des équipes. Elles ont mis de la pression, c'est clair. Elles ont aussi, il ne faut pas l'oublier, gelé les salaires pendant plusieurs années.
Tout à fait.
De sorte pour rattraper un bout. Voilà. Donc il y a eu à la fois des gains de productivité, mais aussi des aides publiques, qui ont coûté d'ailleurs très cher, et puis aussi des réorganisations. L'un dans l'autre, finalement, aujourd'hui, elles ont retrouvé leur équilibre, le package entre heures de travail et rémunération. Et c'est vrai que si aujourd'hui on leur disait bon bah écoutez on rouvre le sujet des heures du temps de travail, vous êtes libre de négocier plus d'heures travaillées ou un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui n'est plus 35 mais qui serait au-delà, à vous de négocier. Il n'est pas certain que sans de fortes incitations légales, elles réouvrent le sujet.
Bon, oui. Daniel Linhart, personne n'en a vraiment envie. Quoi.
Mais je suis pas sûr que personne n'en ait vraiment envie.
C'est
parce qu'il y a toujours cette idée qu'on peut demander plus de la part des directions d'entreprise, mais il y a par ailleurs, cette évidence en France que les salariés se donnent énormément, que le stress, la pression, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de la vie au travail, et que peut-être il faudrait savoir idéologiquement convaincre les salariés que ce serait aussi pour leur bonheur et pour leur plus grand bien. Alors ça, c'est moi ce qui me frappe beaucoup, c'est l'inventivité managériale. C'est-à-dire que pour construire des idéologies, pour leur permettre de demander toujours quand même plus aux salariés, on n'arrête pas le progrès, comme on pourrait dire. On voit les DRH de la bienveillance et du bonheur, les Chief Happiness Officers qui sont là pour masser les salariés quand ils sont fatigués, pour les faire méditer quand ils ont un peu le blues, etc., etc. Donc, il y a cette idée que, bon, les salariés pourraient peut-être encore plus donner d'eux-mêmes si on les bichonne savamment et suffisamment.
Alors, je reviens sur le cœur de notre sujet, mais ça ne nous empêchera pas de parler d'autre chose, sur l'augmentation du temps de travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a plusieurs ballons d'essai qui ont été lancés, plusieurs idées qui circulent. Abandonner une ou deux RTT par an, ça peut être une solution, Stéphane Carcillo, pour financer, pour obtenir des financements.
L'idée, un peu l'objectif de l'augmentation de la durée du travail, quelle que soit la méthode, c'est effectivement de générer un peu plus de production dans l'économie pour financer ce qu'on doit financer, qui sont des choses importantes. C'est la santé, ce sont les retraites, c'est la dépendance, mais c'est aussi l'école. Hein. On a besoin de financer des programmes, notamment pour les enfants les plus défavorisés. Donc il y a des choses très importantes.
Comment on augmente... dire clairement, c'est gagner des points de PIB, gagner des milliards de production.
Voilà.
Quoi,
voilà. Je pense qu'un point extrêmement important, comme ça vient d'être évoqué, c'est qu'il faut expliquer aux Français pourquoi on en a besoin. Et si on doit travailler plus, à quoi ça sert? Parce que là, comme ça, c'est pas évident. Il faut vraiment un grand exercice de pédagogie. Alors, il y a plusieurs méthodes, effectivement. Un jour de congé en moins via un jour férié en moins, ça peut effectivement être relativement efficace. Parce pourquoi? Parce qu'en fait, ça diminue une journée chômée, ça augmente d'une journée de travail sans augmenter le salaire. Donc, effectivement, ça joue sur le salaire horaire et du coup, ça peut inciter les entreprises à produire plus. Idem, si on a réussissait à revenir sur les 35 heures, mais à ce moment-là, il faut pas faire travailler 39 heures ou 40 heures payer 35, hein, payer 39. Il faudrait faire 39 heures payer 35. Mmh. C'est pas facile à expliquer. Mmh. Et ça, je pense que les entreprises ne voudront pas le faire. Et dernière option, c'est de travailler éventuellement, peut-être, plus longtemps sur la vie. Hein, c'est une autre option. Peut-être là, l'option du jour de congé du RTT où c'est travailler plus sur l'année. Mmh. Mais il y a aussi la possibilité de expliquer aux Français qu'on a aussi besoin de travailler un peu plus sur la durée de vie, puisqu'on vit plus longtemps, pour financer tout ce qu'on a besoin de financer, notamment la dépendance.
Daniel Lénard, les gens sont prêts à écouter ce genre de choses ou pas ?
Écoutez, je crois que pas tellement, pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu tout un processus qu'on pourrait appeler de dépolitisation, dans le sens noble du terme, du travail. C'est-à-dire que le travail a été, la relation de chacun à son travail a été de plus en plus individualisée, psychologisée, et on a retiré cette dimension socialisatrice et politique au sens de relation avec les grands enjeux de la société. Du coup, les salariés ont été plongés dans une sorte d'épreuves solitaires où ils sont en permanence sommés de faire leurs preuves, de montrer qui ils sont à leur travail. Ils sont évalués de façon personnelle, intime, etc. Donc il y a une sorte de coupure de l'activité de travail et des enjeux de la société. Ça a été trop intériorisé comme quelque chose de personnel. Où c'est ça, de personnel, où il faut montrer qui on est et savoir faire l'usage de soi-même le plus rentable possible. Du coup, les Français, je pense, en partie, perdent de vue les efforts qu'ils font et les enjeux de ces efforts. Et ils ont l'impression que, puisqu'ils sont, malgré tout, dans le cadre de leur travail, sommés d'être autonomes, mais quand même relevant de la logique de la subordination, ils ont peut-être des difficultés à comprendre qu'il leur faut travailler pour le bien commun et renoncer à certains jours de RTT ou augmenter leur durée du travail. Ça, on a un peu piégé la relation de chacun à son travail de façon trop individuelle et trop personnelle maintenant, pour que les gens puissent comprendre qu'ils sont dans le cadre d'une interdépendance et qu'ils travaillent pour autrui.
Alors justement, il y a une expérience quand même qui a été menée, qui a été même menée au niveau législatif, c'est la suppression du lundi de Pentecôte travaillé, parce que c'était pour financer les retraites, on appelait ça le jour du Seigneur, Stéphane Carcillo. Que montre cette expérience ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça marche ? On est quand même revenu dessus.
On est tout à fait revenu dessus, et ça rapporte entre 2 et 2 milliards et demi d'euros à l'État pour financer quelque chose de très précis, hein. Mmh. c'est pour financer les soins et pour financer la dépendance, notamment des personnes âgées qui sont en situation de dépendance. C'était suite à la canicule et à ces personnes qui étaient isolées chez elles. Et donc effectivement, mais si on regarde ces 2 milliards et demi d'euros supplémentaires, effectivement, c'est une source de financement possible de rajouter encore un jour. Mais quand on regarde par exemple l'enjeu du financement des retraites et l'enjeu du financement de la dépendance, on pense que c'est environ 10 milliards dont on a besoin à l'horizon d'une dizaine d'années. Donc on peut effectivement rajouter 2 milliards et demi de cette manière-là. Mais je pense que plutôt que de coller des rustines ici ou là, il faut avoir un débat très clair, expliquer très clairement quels sont les besoins et quels sont les moyens. Parce que comme ma collègue l'a dit, le temps de travail et le travail, c'est extrêmement important pour les gens. C'est aussi extrêmement structurant pour leur vie familiale, pour leur équilibre familial. Et si on veut changer cet équilibre, changer ses perspectives, il faut expliquer pourquoi on le fait. Et je pense qu'on a besoin vraiment d'un débat sur ce sujet-là.
Est-ce que ce débat est possible, Daniel Lénard ? Les syndicats de salariés ont déjà prévenu qu'ils étaient contre l'idée d'augmenter le temps de travail. Comment ça peut avancer dans ces conditions ? Il reste très peu de temps.
Je pense qu'il faut accepter l'idée de changer quand même certaines des règles du jeu au sein du monde du travail. Notamment finir, moi c'est ce que je pense, avec la clause de subordination qui fait que toute décision est prise unilatéralement quand même. Et qu'il n'y a pas la possibilité de mobiliser intelligence collective pour repenser peut-être une autre forme d'organisation du travail qui serait liée à ces enjeux et aussi à d'autres enjeux comme ceux de la survie de l'humanité dans la planète du point de vue écologique.
Merci Daniel Linhart, merci Stéphane Carcillo d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les Dessous de l'Infox.